Vous écoutez Art District et tout de suite la chronique Muse et Mécène d'Anne Serin-Reil vous fait découvrir des hommes et des femmes qui ont marqué à leur manière l'histoire des arts.
La comtesse Greiffuhl, modèle d'élégance et de savoir-vivre, fut considérée comme l'une des plus belles femmes de son temps. Intelligente et cultivée, elle mettra son talent, ses relations et sa fortune au service de nombreuses causes, et particulièrement des arts et de la science. Née en 1860, Marie-Joséphine Anatole Louise, dite Élisabeth de Riquet de Caraman-Chimay, comtesse Greiffuhl, est issue de la noblesse belge et de l'aristocratie française. Très mélomane, sa mère joue du piano et est élève de Franz Liszt. Toute la fratrie joue d'un instrument et Élisabeth se perfectionne au piano. Malgré ses titres de noblesse, la fortune familiale est relativement restreinte et c'est avec soulagement que la demande du vicomte Henri Greiffuhl est acceptée. À tout juste 18 ans, Élisabeth épouse ainsi le seul héritier d'un empire financier et immobilier. Le richissime comte Greiffuhl est un personnage brutal et colérique, dont l'inconstance est légendaire. Il se comporte en tyran domestique, exigeant de son épouse qu'elle soit toujours rentrée avant minuit et ne tolère pas que sa femme soit en retard pour le déjeuner. Il déjeunait à midi, rapporte Jean Cocteau. Si elle rentrait en retard, il criait au domestique « Ne servez rien !» et elle devait cuisiner des restes sur un réchaud dans sa chambre. « Ma femme, me disait Greiffuhl, c'est la Vénus de Milo !» La comtesse de Greiffuhl confie à son ami l'abbé Munier « Quelques amis que l'on voit de temps en temps tiennent plus de place que celui qui ronfle près de vous. » De cette union naîtrait une fille unique, Hélène, en 1892. Qui épousera en 1904 Armand de Gramont, alors duc de Guiche et ami de Marcel Proust. Élisabeth Greiffuhl est une femme d'une beauté exceptionnelle et à l'élégance incomparable. Elle fait appel à Worth, Fortuny, Doucet, Lanvin, ainsi qu'à de nombreuses autres maisons de couture. Sa garde-robe constitue un véritable trésor, dont certaines pièces sont conservées dans les collections du musée Galliera à Paris. Une exposition lui a d'ailleurs été consacrée en 2015. La comtesse met en scène ses apparitions et sait se faire rare et fascinante. Marcel Proust est subjugué par sa beauté lorsqu'il la rencontre pour la première fois en 1892. Elle portait une coiffure d'une grâce polynésienne et des orchidées mauves descendant jusqu'à sa nuque. Elle est difficile à juger, mais tout le mystère de sa beauté est dans l'éclat, dans l'énigme surtout de ses yeux. « Je n'ai jamais vu une femme aussi belle », écrit-il à Robert de Montesquieu, homme de lettres, critique littéraire et cousin de la comtesse. Sa beauté est immortalisée par de nombreux portraits et photographies. Nadar fera d'elle le fameux portrait à la robe de lys que Proust réclame sans jamais l'obtenir. La comtesse Greiffuhl prend des cours de dessin et de photographie. Elle est également un peintre de talent. Elle utilisait des pseudonymes, par souci de confidentialité. Son autoportrait et le portrait de l'abbé Munier sont exposés au musée Carnavalet à Paris. Par l'intermédiaire de Montesquieu, elle fait la connaissance de Antonio de la Gandera et de Gustave Moreau, dont elle possède plusieurs tableaux. La comtesse est liée par une sincère affection à son cousin. Elle lui écrit « Je n'ai jamais été comprise que par vous et le soleil. » Et Montesquieu commente « J'étais heureux qu'elle me plaçât en premier. » Élisabeth tient salon dans son hôtel particulier de la rue d'Astor et elle reçoit au château de Bois-Boudran ou dans sa villa de Dieppe. Parmi les fidèles, on retrouve le gratin de la noblesse parisienne et européenne et des personnalités comme Charles Haas qui inspirera le personnage de Swann à Marcel Proust. Toujours grâce à Montesquieu, elle se lie avec Edmond de Goncourt, José Maria de Heredia, Stéphane Mallarmé, Judith Gautier, Anatole France et fera de l'abbé Munier, prêtre et confident du Gotha, un intime. La comtesse s'intéresse à la politique et reçoit régulièrement Théophile Delcassay, Pierre Valdez-Crousseau, Georges Clémenceau et le général de Galiffet. C'est sans doute sous l'influence de ces deux derniers qu'elle prendra parti pour le capitaine Dreyfus. Sa notoriété est telle que la presse de droite l'accuse d'être intervenue en sa faveur auprès de Guillaume II en 1899. Elle connaît en effet la mère de l'empereur et a fait un voyage en Allemagne cette année-là. Elle démentira, précisant à son mari furieux de cette mauvaise publicité « Quand Omit racontait sur moi, j'en suis très fière. On me fait jouer un rôle magnifique et on m'attribue une puissance que je n'ai certes pas. Tout cela n'est que de la jalousie et de l'envie. » Élisabeth est une femme de conviction qui n'hésite pas à s'engager personnellement pour des causes qu'elle estime justes. Elle rédigera en 1904 une étude inédite sur les droits à donner aux femmes et soutiendra Léon Blum pendant le Front populaire. Musicienne depuis l'enfance, elle joue du piano et apprend la guitare. Elle rencontre Franz Liszt en 1886 et, toujours grâce à Montesquieu, elle fait la connaissance de Gabriel Fauré, à qui elle commandera une œuvre pour le mariage de sa fille Hélène en 1904. En parfaite femme d'action, la comtesse Gréful crée la Société des grandes auditions musicales. Avec elle, les bonnes œuvres se muent en relations publiques. Elle organise des levées de fonds, fait de la production de spectacles et de la promotion. Elle organise des concerts de musique de chambre et finance des représentations lyriques, comme celle de Béatrice et Bénédicte d'Hector Berlioz en 1890, ainsi que la première représentation parisienne de Tristan et Isolde de Richard Wagner en octobre 1899. Le Crépuscule des dieux sera donné quelques années plus tard. Elle suivra la carrière de la danseuse américaine Isadora Duncan, révélée en 1901 dans les salons de Madame de Saint-Marceau. En 1907, elle accorde son parrainage à Serge Diaghilev pour l'organisation de 5 concerts russes à l'Opéra de Paris et dès 1907, elle financera les ballets russes aux côtés de Misia Serre. Élisabeth Gréful se passionne pour les sciences. Elle fait la connaissance de Pierre et Marie Curie en 1903. Après la mort de Pierre Curie, elle soutient Marie dans son projet de créer l'Institut du Radium et lui permet d'en trouver le financement. Elle rencontre Édouard Branly en 1902. Elle se passionne pour ses travaux, visite son laboratoire et lui apporte une aide efficace à plusieurs reprises. La comtesse convainc le directeur du journal Le Matin d'organiser une conférence. La démonstration publique d'Édouard Branly a lieu en 1905 dans la grande salle du Trocadéro devant des ambassadeurs, des personnalités publiques et des membres de l'Institut. La rencontre avec Marcel Proust est déterminante. Aussitôt fasciné, il fait de la comtesse le principal modèle du personnage de la duchesse de Guermantes. Leur amitié commence difficilement. Il semble en effet que la comtesse appréciait guère le jeune auteur et ne l'acceptait dans son salon que pour faire plaisir à Robert de Montesquieu. Elle dirait de lui « Ses flatteries avaient un je ne sais quoi de collant qui n'était pas de mon goût et il y avait cette absurdité à propos de ma photographie qu'il réclamait par l'intermédiaire de Robert. » Il s'agit de la photo de Nadar, la robe à fleurs de lys. Et elle reprend « La dernière fois que je l'ai vue, c'était au mariage de ma fille. Et là encore, il a mentionné ma photo. C'était fatigant. » Malgré ces débuts difficiles, leurs échanges seront nombreux et leurs correspondances témoignent de leur amitié sincère. C'est à elle que Proust emprunte le rire cristallin de la duchesse de Guermantes. « Le rire de Madame Gréful s'égrène comme le carillon de Bruges, » déclarait-il. Il s'inspire d'elle non seulement pour la duchesse et la princesse de Guermantes, mais également pour d'autres personnages, comme Odette de Crécy, à qui Élisabeth Gréful prête son élégance. Son mari, le comte Gréful, est le principal et presque unique modèle du duc de Guermantes. Selon Laure Hillerin, l'analyse des œuvres du jeune Proust, ainsi que de ses brouillons, montre que la comtesse joua un rôle clé dans la jeunesse de la recherche, et en particulier dans l'élaboration même du nom de Guermantes. La comtesse occupait une position mondaine exceptionnelle et avait le don de mettre en contact les personnes au bon moment et au bon endroit. Son immense carnet d'adresses comprenait toutes les têtes couronnées d'Europe, ainsi que les sommités des arts, des sciences et de la politique. La divine comtesse vécut la fin du Second Empire, les deux républiques, deux guerres mondiales et connut la belle époque, les années folles, et régna sur le Gotha durant un demi-siècle. Jean Delage, chroniqueur à l'Écho de Paris, évoque la comtesse Gréful à travers ses souvenirs. Il écrit « Un soir, devant sa coiffeuse, elle me dit « Le monde, voyez-vous, est un spectacle. Nous sommes toujours en représentation. C'est lassant parfois d'être sur la scène. » Sa sœur, la comtesse Ghislaine, qui était avec nous, ne put s'empêcher de sourire et de murmurer à mon oreille «
elle ne saurait pas s'en passer. »
Et pourtant, cette femme qui avait géré son image comme une œuvre d'art fut reléguée dans l'ombre de l'oubli. Son souvenir persiste cependant à travers l'œuvre de Marcel Proust qu'elle inspira largement. Elle s'éteint à l'âge de 92 ans, en août 1952. Pour comprendre qui était vraiment cette femme remarquable, reprenons un instant encore le récit de Jean Delage, alors qu'il s'adresse à la comtesse suite à un dîner auquel il avait été invité. « Vous m'avez placée hier à votre droite, chère comtesse. Savez-vous que si j'ai eu un père qui s'est imposé par son intelligence, mes grands-parents étaient de très modestes artisans ?»« Que m'importe ?» répondit-elle en riant. « Vous êtes ce que vous êtes. Je vous considère d'ailleurs non pas comme un journaliste, mais comme un rêveur. J'ai bien le droit, si cela me chante, de mettre le rêve avant le monde à la place d'honneur. »
C'était Muse et Mécène, la chronique d'Anne Serin-Reil sur Art District. À retrouver à 7h30 et 13h30.